Ce balado vous est offert par le Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Pour en savoir davantage sur le CRDP, visitez le www.crdp.umontréal.ca.
Bon, merci d'être là. J'ai préparé un texte que j'ai donné à Fabien Gélinas pour distribution, mais apparemment le texte ne fut pas distribué. Je m'excuse pour cela. Je fais en sorte que j'enverrai une copie électronique à Nicolas au mail. Tu m'écris après et je te transmets. C'est un texte préparé pour une colloque à Queens ce printemps sur le pouvoir des pensées et j'en ai développé quelques éléments dans ce texte. Ici, je puise dans ce texte pour lancer quelques affirmations, avec un peu de justification, mais plus des affirmations que des justifications pour le moment, pour qu'on puisse vraiment engager un débat intéressant. Et j'ai débuté avec deux petites anecdotes. En 1862, après que des États du Sud ont quitté la Fédération américaine, le Congrès américain a passé trois lois très importantes, probablement les trois lois les plus profondes qu'il a jamais adoptées ce Congrès. Il y avait une loi qui permettait le fédéral à offrir des terres de l'ouest des États-Unis aux citoyens qui voulaient s'établir comme fermiers ou comme settlers. Deuxième loi, une loi qui permettait le Congrès, le gouvernement, de subventionner la construction des chemins de fer à travers les États-Unis en donnant aux compagnies de chemins de fer des terres fédérales. Ces deux lois était, selon la jurisprudence, incontestablement les lois qui relevaient du pouvoir fédéral américain. Mais la troisième loi, le Morrill Act, M-O-R-R-I-L, c'était une loi qui permettait le fédéral de vendre ses terres de l'Ouest et de les transférer aux États du Nord pour ensuite permettre ces États de vendre ces terres pour financer les universités et les collèges. Et donc, les universités comme Cornell, Michigan State, Ohio State, University of Massachusetts, en tout, University of Vermont, University of New Hampshire, en tout, presque toutes les universités d'État aux États-Unis furent financées au début par le fait que le fédéral a donné les biens de l'État fédéral aux institutions qui relevaient de la compétence des États et non pas du fédéral. Il y avait une contestation de la constitutionnalité de cela, c'était la première contestation de la constitutionnalité du pouvoir dépensé du fédéral aux États-Unis et la Cour suprême a décidé que ça relevait du pouvoir dépensé approprié du fédéral, sans beaucoup de justification, un peu comme la jurisprudence canadienne depuis 100 ans. Le deuxième anecdote, c'était en 1864, cette fois aux États du Sud. Le Sud perdait la guerre civile aux États-Unis. Et une des raisons pourquoi ces armées perdaient les batailles, c'était qu'il n'y avait pas assez de troupes pour contester l'avance du Nord. Pour combler ce besoin, il y avait l'idée de de faire la conscription des Noirs dans les armées du Sud. Armer les esclaves, c'était le slogan. Mais évidemment, ils ont décidé que c'est difficile de faire un soldat de Noir si, après la guerre, après avoir gagné la guerre, il redevient esclave et lutter contre une armée d'un autre, l'armée du Nord, qui promettait la liberté. Donc, le Congrès de la Confederacy a décidé, on va promettre en échange de leur service comme soldat de les libérer ainsi que leurs femmes et leurs enfants, la famille en effet. Et cette décision du gouvernement ou du Congrès des États confédérés fut contestée parce que c'était un exercice du pouvoir dépensé. Voici pourquoi la Constitution des États confédérés ne permettait pas le gouvernement fédéral, confédéré, passer ou d'adopter une loi concernant l'esclavage. On ne pouvait pas toucher ça. Ça, c'était réservé uniquement aux États. Donc, la seule façon d'agir comme ils voulaient, c'était d'acheter des esclaves, de leurs maîtres, partout au Sud, de les conscrire dans l'armée du Sud, et après la guerre, de leur libérer. De leur libérer veut dire donner des biens de l'État fédéral, parce qu'ils ne sont plus en bien, ils deviennent une personne qui veut dire on a dépensé, on a donné des biens. Et on a contesté le pouvoir du gouvernement de le faire. On a accepté que le gouvernement avait le pouvoir d'acheter les esclaves, de les mettre dans le service des armées et de faire tous ces éléments-là, mais pas le pouvoir éventuellement de le libérer, parce que c'était une dépense et c'était pas pour un but identifié dans la liste des pouvoirs du gouvernement fédéral. Cette contestation est allé devant les tribunaux de la Géorgie et de Caroline du Sud, qui ont décidé que c'était non constitutionnel, mais n'est jamais passé devant les tribunaux des États confédérés parce que la guerre a terminé avant qu'on pouvait plaider la cause. Mais l'avis du procureur général et le secrétaire d'État, qui fut à l'époque Judah P. Benjamin, qui était connu par plusieurs parmi vous comme le monsieur Benjamin du livre renommé Benjamin on Sale, qui a publié en Angleterre après la guerre, et qui fut la personne d'origine juive qui était le plus élevé dans la bureaucratie des États confédérés. En tout cas, Benjamin a décidé que ça relevait du pouvoir inhérent du gouvernement fédéral de dépenser, même si la dépense n'avait rien à voir avec les pouvoirs législatifs du gouvernement des États confédérés. Donc, dans ces deux anecdotes-là, vous voyez les paramètres de toute la discussion du pouvoir de dépenser qu'il existe dans les fédérations. Et j'aimerais développer ces deux idées avec en trois temps. Premièrement, j'aimerais faire un bref rappel de comment les gouvernements dépensent de l'argent. Parce que souvent, quand on parle de pouvoir dépenser, on a en tête l'idée que le gouvernement a de l'argent comptant qu'il attribue soit un gouvernement, soit une corporation, soit un individu dépensé, comme acheter un banane. Mais effectivement, tout ce qui fait un gouvernement a des conséquences fiscales. Tout ce qui fait un gouvernement constitue une sorte de dépense. Que ce soit, par le biais d'un instrument fiscal comme tel, ou que ce soit par le biais d'un instrument purement normatif. Je commence avec le plus simple, l'instrument fiscal. On peut dépenser en donnant une subvention. On peut dépenser en faisant un contrat avec un particulier, ou on vend quelque chose ou on achète quelque chose pour un prix qui dépasse de loin la valeur marchande du bien acheté de quelqu'un qui traite avec le gouvernement. Ça, c'est une dépense parce que c'est effectivement un don à cet individu en payant un prix inflationnaire pour le produit. Il y a également les déductions fiscales qui sont des dépenses. Et par cela, je ne veux pas dire simplement des déductions fiscales pointées, acheter telle ou telle action de telle ou telle compagnie canadienne, on baisse le taux d'intérêt ou on baisse le taux d'imposition. Mais même les déductions de base, une déduction pour un individu qui est différent qu'une déduction pour une famille, et on ajoute plus pour les enfants et plus pour plus d'enfants, ce sont des dépenses réglementaires faites par le biais d'une déduction fiscale. Et donc, au point de vue purement économique, tous ces instruments fiscaux, l'emprunt que fait le gouvernement par le biais des obligations du Canada et l'intérêt payé sur les obligations, c'est une dépense. Parce que autant que les conditions de l'intérêt sont différentes que les conditions d'intérêt dans le marché ou que l'emprunt soit garanti d'une manière ou d'une autre contre les biens du fédéral, cet emprunt constitue une dépense. Et donc, si on se sert de cet argent-là comme manière de subventionner celui qui achète les obligations en lui donnant un taux d'intérêt élevé, c'est une dépense. Les instruments normatifs, par contraste avec les instruments fiscaux, sont de la même nature. Chaque fois qu'il y a une loi réglementaire ou c'est un organisme des provinces qui doit faire enforcement. L'application de cette loi, effectivement, c'est une conscription des ressources des provinces pour financer un projet fédéral. C'est le contraire d'une dépense, mais la même chose se passe si on édicte une loi et offre un service comme le GRC à certaines provinces à un escompte. Parce que quand les provinces achètent les services du GRC pour un montant moindre que le coût réel du GRC, effectivement, c'est une subvention envers ces provinces sur le dos de l'Ontario et du Québec qui ont des sorties provinciales pour faire les mêmes choses. Donc, il y a toutes sortes de dépenses qui se font à travers les instruments normatifs, autres que des instruments qui sont techniquement fiscaux. Qui veut dire? Pour vraiment saisir l'idée du pouvoir fédéral de dépenser, il faut commencer avec un inventaire complet des instruments d'action des gouvernements et une analyse de leurs conséquences financières. Autrement, c'est comme pousser sur une ballon. On contrôle quelque chose ici, mais il y a un élargissement ailleurs. Deuxièmement, c'est quoi l'origine historique, et je parle uniquement historique pour le moment, de la crainte du pouvoir de dépenser fédéral. C'était que le gouvernement fédéral, par l'exercice de son pouvoir de dépenser, pouvait ou bien contourner une politique provinciale dans un domaine de compétence provinciale, ou bien diriger la politique provinciale en offrant des subventions ou en offrant des cadeaux ou des incitatifs. Ou, et troisièmement, qu'on pouvait limiter le pouvoir des provinces ou bien en leur impliquant dans les shared cost programs où les provinces devaient également cofinancer ou bien en élevant le taux d'imposition fédérale qui en effet empêchait les provinces de taxer leurs propres citoyens parce qu'il ne restait plus d'argent. Donc, dans toutes les circonstances-là, on voyait une crainte que le pouvoir de dépenser permettait le gouvernement fédéral de contrôler ou d'envahir les compétences provinciales. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, c'est-à-dire au moins jusqu'aux années 50, au moins deux provinces se sont servies du pouvoir de dépenser pour envahir les compétences ou bien d'autres provinces ou bien du fédéral. On se rappelle bien que le sixième point des demandes non négociables du Québec pour accéder à la Constitution de 82, c'était de reconnaître le pouvoir de Québec, le gouvernement du Québec, de soutenir la francophonie à travers le Canada et de subventionner aux besoins de la francophonie canadienne hors Québec. Dans la négociation éventuelle autour de Lac-Meech, ce sixième point fut abandonné, mais c'était le reflet des lois qui datent des années 1920, je crois, les premières, qui permettaient le gouvernement québécois de subventionner des institutions religieuses, artistiques, culturelles ou éducatives des francophones hors Québec, notamment les franco-manitobains et les franciscois et les acadiens et les franco-albertains. Pas la connaissance des franco-ontariennes, mais je n'ai pas fait assez de recherche sur cette question, mais c'était sûrement les quatre autres provinces. Également, il y avait des subventions directes aux jeunes de ces autres provinces pour étudier dans les universités québécoises. Et mon collègue Paul-André Crépeau, c'était l'exemple d'un petit flot de Gravelbourg, Saskatchewan, qui était financé pour étudier le droit civil à l'Université de Montréal sur ce programme-là. Subvention, student loan, dirigé à quelqu'un qui habitait à Saskatchewan pour étudier au Québec. Il est clair que le cible du problème de pouvoir dépenser a changé. De nos jours, ce n'est plus la question de diriger la politique provinciale par des programmes de cofinancement ou dépenses directes pour contenir le programme, c'était que le fédéral essaie d'occuper trop de place dans trop de place de taxation pour les fins qui ne sont pas proprement fédérales, mais qui empêchent les provinces de dépenser. Mais voici une hypothèse. Imaginez que le gouvernement fédéral aujourd'hui décide de ne plus dépenser une cent sur un programme conjoint ou un autre programme, une autre invasion de la compétence fédérale, mais a décidé de maintenir le niveau d'imposition actuel et de se servir de tous ces revenus-là pour payer la dette fédérale, ou même d'augmenter le taux d'imposition pour payer la dette fédérale. C'est clair que c'était un objectif bona fides fédéral, mais les faits sur la capacité des provinces de faire ce que font les provinces est également miné, autant que si c'était une dépense dans un domaine de compétences provinciales. Donc, l'argument a changé depuis 20 ans vers l'idée de balance fiscale et non pas du pouvoir. Le pouvoir dépenser, c'est un exemple de l'imbalance fiscale et non pas l'objet en soi. L'objet fondamental, c'est est-ce que la répartition des ressources de taxation ou autres du pays sont équitables? Qui m'amène à mon troisième sur les quatre points. C'était la raison pourquoi l'argument a changé sa forme dans les 20 dernières années. C'est parce que les instruments de gouvernance et la politique P majuscule a changé depuis 20 ans. Revenons aux années 30. Même s'il y avait un pouvoir dépensé fédéral avant les années 30, c'était suite à la commission Rolls-Sirois et la Deuxième Guerre mondiale et tout ça qu'on a vu une grande explosion de l'exercice de ce pouvoir. Et c'était en partie à cause de cela que le Québec a décidé d'adopter sa propre loi sur les impôts sur le revenu au début des années 50, et c'est pour cette raison qu'il y avait la commission Tremblay des années 50. Le concours, la contestation à cette époque, c'était pas entre le Québec et le fédéral sur la question qui va dépenser pour telle ou telle affaire. C'était plutôt un fédéral qui avait une vision État-providence de ce que fait le gouvernement dans la période après-guerre, et le gouvernement québécois qui avait toujours une vision, je dirais, restreinte de ce que fait le gouvernement et qui était intéressé à continuer à promouvoir l'Église catholique comme véhicule d'éducation, de bien-être social, etc. Donc, c'était une dispute sur les fonctions du gouvernement et non pas sur quel gouvernement fera les dépenses. Avec l'élection de Jean Lesage en 1960, l'objectif a changé. À ce moment-là, Lesage avait la même idée du gouvernement agissant comme État-providence que le fédéral, et la concurrence, c'était quel gouvernement devait assumer la responsabilité des grands projets de l'État-providence. Il y avait des grands débats sur les pensions de vieillesse, sur est-ce que l'assurance chômage englobe également le pouvoir de financer des programmes d'aide à l'emploi, la question de santé, Medicare et tout ça. C'était une contestation entre l'Ontario et Québec d'un côté et le fédéral. Quel gouvernement est le gouvernement du peuple? Quel gouvernement reflète les aspirations du peuple? Mais ce qui est intéressant, comme Tom Kent note, dès le début des années 70, déjà le fédéral commençait à renoncer à ses obligations de fournir les fonds nécessaires pour combler ses responsabilités assumées sur les projets de cofinancement. En d'autres termes, le pouvoir dépenser avait un sommet entre 1950 et 1970 comme dépenses réelles, et sa deuxième vie, c'était le maintien des programmes de cofinancement, le fardeau dompté sur les provinces, sans les sous, même les sous promis pour l'accomplir. Et on a vécu une période de 70, 95 plus ou moins, où successivement le gouvernement fédéral dompait le coût de ces programmes aux provinces. Qui m'amène à mon quatrième point et dernier point. Est-ce que la crainte du pouvoir de dépenser, est-ce que c'est une crainte réelle ou est-ce que c'est une crainte qui était conjoncturelle? En d'autres termes, il n'y avait pas vraiment un grand pouvoir dépenser avant 1930 parce que l'idée de ce que fait les gouvernements n'était pas État-providence, pas les grandes bureaucraties de redistribution. Il y a plusieurs, dont moi, qui voient dans le développement de politiques publiques actuelles l'émergence d'un troisième sorte de gouvernement, qualifié de point de vue négatif comme néolibéralisme, qualifié du point de vue positif comme reconnaissance de l'identité et individualité des citoyens et la création des instruments qui permettent à chaque citoyen à s'épanouir selon ses propres désirs. Indépendamment de ce que font les gouvernements de droite ou de gauche avec ces nouveaux instruments, il est clair que la bureaucratie réglementaire et les grands programmes conjointes de dépenses, de financement, sont les programmes et les instruments du dernier millénaire et ne sont pas le centre de l'action gouvernementale de nos jours. Et donc la question c'est, est-ce que ce changement des modes de gouvernance va également changer la discussion autour du pouvoir dépenser. Et avec cette analyse, je me rejoins avec les gens qui s'intéressent plus à l'imbalance fiscale. Parce que je ne crois plus que le centre de l'action sera le pouvoir dépenser tel qu'on l'a connu depuis 50 ans, mais c'est plutôt que fait le gouvernement fédéral au niveau fiscal. Est-ce que les ressources disponibles pour le fédéral sont suffisantes pour les programmes et projets fédéraux tels qu'ils existent? Et est-ce que le fédéral essaie de trop taxer pour effectivement empêcher les provinces d'agir et redonner l'argent directement aux individus canadiens consommés individuellement pour effectivement avancer des programmes qui relèvent de la compétence des provinces. Et j'ai essayé de faire une analyse objective, autant que c'est possible, du discours autour de l'imbalance fiscale. Et j'arrive à une couple de conclusions. Aux yeux des provinces, il y aura toujours, pour toujours, jusqu'à la fin du monde, le cri d'imbalance fiscale. C'est un désir qui ne sera jamais comblé par le fédéral. Deuxièmement, ce que constitue une imbalance fiscale est extrêmement difficile à cerner. Parce que on ne sait pas si l'huile et les revenus provenant de pétrole en Alberta devaient compter. Est-ce que les revenus d'Hydro-Québec devaient compter? Est-ce que les revenus des forêts en Colombie-Britannique devaient compter? Comment identifier, je dirais, les biens en capital qui génèrent des revenus? Les biens en capital, cette analyse, sont des citoyens qui travaillent, sont des corporations, sont des ressources naturelles, et comment comptabiliser le revenu qu'on devait qui pourrait dériver. Et si le gouvernement de Colombie-Britannique décide, par exemple, que les gens de Colombie-Britannique aiment la forêt, on coupe plus d'arbres, est-ce qu'on devait comptabiliser la valeur des arbres contre le gouvernement de Colombie-Britannique, même s'il ne vend pas leurs arbres? Si le Québec décide, on ne va pas faire des barrages pour générer plus d'énergie, parce que nous sommes maintenant verts, est-ce qu'on devra comptabiliser la valeur possible d'électricité qui pourrait être générée par ces barrages contre le bilan fiscal du Québec? Donc, pour dire en bon français, it's a mug's game. Il est impossible de décider du point de vue purement analytique la nature de balance ou imbalance fiscale, qui m'amène à la conclusion, la prescription politique. Il me semble que ce sont des questions que nos institutions actuelles de gouvernance, nos institutions fédérales actuelles de gouvernance ne sont pas capables de résoudre. Et que peut-être c'est le temps d'imaginer ce qui était proposé il y a 30 ans par Albert Table, qui existe d'une certaine forme en Suisse, qui existe dans une certaine forme en Australie, qu'il y aura proposé qu'il y aura un conseil économique nommé par les provinces, les membres nommés par les provinces et par le fédéral. Il faut trouver le juste mesure de balance qui aura pour responsabilité de repartir le pouvoir d'emprunter des divers gouvernements, le pouvoir de taxer des gouvernements et de juger si un programme quelconque qui implique une dépense est véritablement une dépense ou une conséquence collatérale de l'exercice d'une compétence attribuée à ce gouvernement. Donc, une sorte de Cour suprême économique, mais une Cour suprême nommée de manière plus équitable par les membres de la Fédération pour essayer de régler ces questions, développer des normes, des barèmes et tout ça. Ça existe en Suisse, ça existe en Australie. D'une certaine manière, certains éléments de la Commission européenne essaient de faire la même chose, sauf qu'ils sont trop centralisateurs, comme la tendance de toutes les fédérations. Et deuxièmement, création de ça, deuxièmement, quel principe fondamental devait guider ça? Moi, je dis la péréquation entre les gouvernements n'est plus la manière de régler les disparités entre les diverses régions du Canada. La responsabilité du gouvernement fédéral et de la péréquation, c'est la péréquation des opportunités, égalité des chances, égalité des ressources des Canadiens, et non pas des provinces entre eux. Donc, lire 36 de la loi de 1982, comme disant au fédéral, votre seule capacité de distribuer l'argent hors le cadre de 91 et autres articles, c'était pour s'assurer une égalité de chances et d'opportunités aux Canadiens à travers le pays. À part ça, comme norme régulatrice, à part ça, aucun pouvoir de dépenser en dehors des compétences de 91. Avec un petit corollaire. Si jamais la province tombe en ruine, Si, par exemple, l'île du Prince-Édouard coule, il se peut que si on ne peut pas réaménager les provinces pour fondre l'île du Prince-Édouard dans le Nouveau-Brunswick ou Nouvelle-Écosse ou autre, que le fédéral devait assumer le coût des institutions gouvernementales, c'est-à-dire le Parlement et les ministères de ces provinces sur une base temporaire. Pas ça, pas de pouvoir de dépenser. Et voilà. Oui, c'est à toi.
So I come from Kingston, and it's a very small town. And I often see Rod's papers before they appear in publication. And one of the games I like to play with myself is I try to imagine what the student editors are going to put in the abstract. How are they going to encapsulate what Rod McDonald is saying? I find myself today in that same position. How to encapsulate what Rod's arguments, essential arguments, are, and how he positions himself within the existing debate and how he pushes that debate. So I understand that the paper that you wrote, Rod, has not been circulated.
No.
Okay. So I'm going to try to speak to what I think is one of the essential concerns in Rod's paper and also in his presentation, which I think is a concern about formalism. So Rod begins his presentation by expanding the field of debate to determine what counts as spending. Right? So he talks about legislation, various forms of fiscal policy. Right? And I think the initial move in this argument is to sort of challenge the participants in the traditional debates about the spending power, challenge their characterization of the issue, which, as he says, has been primarily focused on shared cost programs, conditional spending, and finally the fiscal imbalance. But there's a second dimension of his challenge to formalism, I think, and this comes out more strongly in the paper than it does in the presentation, and it's directed at some of the people in this room, so it's a little delicate. But the attack, I think, is on an interpretation of the division of powers. Right? That is, Rod's challenge to certain interpreters of the certain commentators on the spending power is to challenge their vision of the division of powers. And in Rod's view, I think he views their interpretation of the division of powers as fixed, as originalist, as textualist, as these aren't his words, but I think this is what he means. Actually, these aren't his words, but from a previous draft, as being fairly unsophisticated. So, he cleaned up a little. So he challenges the arguments, and one of the things he notes is that what we have in constitutional doctrine is a shift. Right? We have a shift from a watertight compartments view of the division of powers into one with increasing overlapping areas of jurisdiction, broad powers of a broad definition of what counts as a conflict, such as can trigger paramountcy, narrow interjurisdictional immunity doctrine, right? And so he says, I think in the paper, that the arguments against the spending power, which rest on a watertight compartment view of the division of powers, simply can't succeed as a matter of constitutional doctrine. Right, that is, they do not account for shifts in constitutional doctrine. Right? But the argument, I think, goes farther, and it goes farther in the paper, and that is, he also charges, I think, his opponents with using constitutional law, constitutional doctrine, constitutional text in a way that is instrumental and strategic. Right? And so what does he mean by this? What does he mean by strategic use of the of constitutional text and constitutional doctrine? Well, I think one thing he means is, and not to put too fine a point on this, he charges them with a certain hypocrisy, right? And what does that hypocrisy consist of? The hypocrisy consists of reading certain provisions of the constitutional text as determinative as evidencing an original intention, right, while ignoring other provisions of the Constitution, right, the powers of disallowance, the powers of reservation, right? So Rod's argument, I think, is you cannot rely on the constitutional text in one circumstance, call upon its original intention in one case, while ignoring the constitutional text and not acknowledging its original intent in the other. Right? That is, you cannot found your arguments on original intention and text. You must bump the argument up into the normative realm. Right? You must provide good arguments for why you are relying on constitutional text, why you are relying on certain forms of constitutional doctrine. Right? And so I think this has a certain amount of rhetorical force, right? So the argument is, in one version, right, that formalism relies on a bad faith interpretation of the Constitution. But I want to challenge Rod a little bit here and ask him whether or not formalism can serve other functions, right? We may rely on the constitutional text, we may rely on things like original intention, not because we think that it evidences a univocal original interpretation, but precisely because we think it evinces and protects a certain set of constitutional interests. Let me consider two. Right? The first is what polygamists generally argue for, the authority of law, the settlement function of law. Right? We do not look to the underlying purposes of the constitutional text. We do not look beyond the express text of constitutional judgments, because these judgments and these texts provide a settlement function. They settle disputes in advance, right? The second argument for relying on constitutional texts and on formalist arguments, right, is that these formalist arguments actually have real normative value, right? And so, typically in the context of the spending power and generally in the context of Canadian federalism, one of the reasons why people argue for bright line distinctions in constitutional doctrine, for the watertight compartments theory, for a strict enforcement of the division of powers, is not because they believe that it reflects and this is a direct quote from Ron again, vision of original omniscience, right, but rather because it serves particular political purposes. And those purposes are to protect the sovereignty of Quebec, to protect the community of Quebec against the potential homogenizing forces of the rest of Canada, right? Federal political processes do not serve this function for us. So constitutional doctrine, in its formalist forms, right, will. Bright-line rules enforced through strict interpretation of division of powers. Okay. So Rod's arguments against formalism are directed primarily at a version of formalism which imagines that the text actually evinces the original intentions of the authors. Right? The better version of formalism is a version of formalism that understands bright-line rules and strict reading of the text in a normative sense, right, to constrain the federal power and to provide a settlement function for courts. Okay, so that's the better version of formalism, right, and that's the better, and that's the strongest response to Rod's critiques. We might ask, what is Rod's counter response to this revised version of formalism? And here, I think there is it's not quite inconsistency, a sort of question that one can raise in Rod's analysis. Right? So Rod, for those of you who have read Rod's other works, his definition of law is expansive to the point of being, everything. Right? Nothing is not law in Rod's world. Right? Nothing is not constitutional law in Rod's world. Right? And the argument as it develops in the paper is to say that we have moved through a variety of eras of fiscal policy. We have now arrived at what he calls the third national policy, which he described at the very end of his presentation, right? And Rod says that in the future, right, or in the present, right, we must imagine how to construct constitutional theory, construct legal doctrine, construct normative visions of federalism which reflect this third national policy. The question I have for Rod is, if your general view of law, that is, law is virtually everything, is correct, why would you look to Section 36 to anchor the analysis? Right? It seems to me that you don't need a textual basis at all for your arguments. Right? if your argument about how the division of powers has evolved and how the spending power in particular has evolved over time points directly to political developments, right? Why anchor your arguments in constitutional texts? Right? And I think I'll close my response to Rod by offering a couple of hypotheses about why he does this.
Right? I love being psychoanalyzed.
It's a response. You will have your time. Sit there and take it. So if Rod is interested in anchoring his analysis in constitutional text, right, I think there are sort of two problems. Right? One is interpreting Section 36 in a way that's consistent with the concerns of those, such as Professor Lajoie, about the integrity and the importance of the provinces, and in particular the province of Quebec, for the identity of Quebecers. Right? You argue for direct spending in areas of provincial jurisdiction to put forward the national goals expressed in Section 36. Right? But it seems to me that the strong proponents of a provincialist, a very strict enforcement of the division of powers in 91-92 would say that the better means of achieving this policy is unconditional grants. Right? Unconditional grants to the province of Quebec. The province of Quebec can decide how that money will be spent to promote the individual interests of Canadians and promote Section 36 objectives. Right? You don't need direct federal intervention. And one of the authors you cite in the article is Tom Kent. Right? And Tom Kent's reasons for direct federal spending are purely instrumental, right? Purely about protecting the federal jurisdiction, purely about political rewards of spending. Right? The reason he argues for direct spending rather than conditional spending is because he says that there are no political benefits of conditional spending or shared costs because there's low visibility. Right? So it seems to me that your prescription for Section 36, right, can be achieved in ways that respond to the concerns of what I've called the communitarian vision of federalism, that are protective of provincial sovereignty, right? So I think that the prescription does not quite meet the concerns of your opponents or of the critics of the spending power. And I'd like to close by doing the final bit of psychoanalysis, if you'll indulge me, right? And I think that Rod the legal pluralist is not quite so legal pluralist. Right? That is, Section 36 is important as a focus of his constitutional analysis, not for the reasons that I set out about formalism at the beginning of my response, but rather because I think that the Constitution functions as a symbol. Right? And Section 36 is a symbolic meeting place for people with divergent views of the spending power. Right? And we can have our debates about the Constitution through constitutional text rather than through wide open debates about background policy. Right? And that is the significance of constitutional text, I think, in the Rod MacDonald world. It is not for formalist reasons. It is not for the instrumental reasons of formalism, either for settlement reasons or for communitarian reasons. Right? But it is as a meeting ground around which people can have a meaningful debate about the stakes of Canadian federalism. I think you get a response to your analysis.